Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier CP95 podcast. Je suis Mike et j'ai le plaisir et le privilège d'être votre hôte pour ce poker podcast qui j'espère sera le premier d'une très très longue série. Alors qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Alors déjà à qui est-ce qu'il est adressé ? Il concerne surtout les membres du CP95 et tous ceux qui veulent nous rejoindre. Il sera animé par une personne, un animateur dans un premier temps, ça sera moi. D'autres volontaires viendront ensuite. Et cet animateur recevra un ou plusieurs invités parfois. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de la vie du club, des différents événements du club, les tournois, les jeudis, les conférences, je ne sais trop quoi. Il y aura également un résumé de l'activité du forum. On parlera bien sûr des performances des membres du club, performances à la fois en live mais aussi online. On parlera peut-être aussi un petit peu stratégie et puis j'imagine qu'on dira beaucoup de bêtises, surtout quand on recevra les invités. J'espère que d'une manière générale, le contenu vous satisfera. Et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques sur ce que vous souhaitez que l'on aborde au cours de ce podcast. Alors, la fréquence, on va commencer doucement, hein. Ça c'est le premier podcast, on va essayer d'en faire un par mois au début pour commencer. Si ça marche, s'il y a de la demande, s'il y a d'autres animateurs, on essaiera d'accroître la fréquence à un rythme de 1 toutes les deux semaines, peut-être même si vraiment ça plaît, un rythme plus rapide, mais dans ces cas-là, je pourrais pas être tout seul, il faudra pas mal d'animateurs pour le faire. Alors, enfin, pourquoi est-ce qu'on fait ce petit podcast ? C'est avant tout un complément du forum. Beaucoup d'entre vous ne vont pas régulièrement sur le forum, manquent des informations qui sont des fois importantes. Et puis ça peut aussi être sympa d'avoir quelque chose à écouter dans la voiture en allant travailler ou dans le train, ou même pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un iPod pendant qu'ils bossent, et ben pendant qu'ils sont en train de travailler. Voilà. Alors, encore une fois, ce premier épisode, c'est un essai. Il y a des choses qui iront, des choses qui iront pas. J'imagine qu'il sera très perfectible au niveau technique, au niveau de son contenu. Je vais certainement bafouiller pas mal, j'espère qu'avec l'habitude ça va s'atténuer, et je pense que les intervenants, les invités seront peut-être aussi un petit peu déroutés par ce genre d'intervention, et donc d'avance, excusez-nous pour tous les bafouillements que nous allons avoir au cours de ce petit podcast. Faites-nous part de vos remarques, de vos critiques, de ce que vous souhaitez que l'on aborde, tout ce qui vous passe par la tête et que vous aimeriez qu'il soit évoqué lors de ces podcasts. Enfin, ce premier épisode risque d'être un petit peu plus court que les suivants, ou pas, on verra, hein. Et puis d'abord, rien ne nous garantit qu'il y aura des épisodes suivants, ça va dépendre un petit peu du retour qu'on a de votre part. Alors on va maintenant rejoindre Bruno, alias Enkil, notre président, et nous allons parler avec lui de son parcours, du club, et aussi de la législation qui vient de rentrer en vigueur en France sur les paris et bien sûr sur le poker en ligne. Alors bonjour Bruno.
Bonjour Nick.
Alors, on va parler un petit peu ensemble de plein de choses. J'aimerais avant tout savoir Enkil. Enkil, ça veut dire quoi ? D'où tu sors ce nom tordu ?
Alors, ce nom tordu, en fait, ça vient d'une série de livres qui a été écrite par Anne Rice, qui parle des vampires. Donc, le premier livre était Entretien avec un vampire qui est passé à la télé avec Brad Pitt et Tom Cruise. Et donc en fait dans ces livres là il y a un des premiers vampires, le deuxième vampire plus exactement, qui était un roi d'Égypte et qui s'appelait Enkil. Et donc comme c'est une série que j'aime bien et un personnage qui me fait beaucoup rire parce que en fait c'est un vampire qui est à l'origine de tout mais qui sert à rien, et je trouve que ça correspondait plutôt pas mal en fait.
Sympa. Bon, maintenant tout le monde pourra savoir que t'es un vampire.
Voilà.
C'est toujours bon à savoir. Et comment t'es arrivé au poker en fait?
En fait, je viens au départ du monde des échecs. Et tous les joueurs d'échecs, par définition, sont des joueurs. Et du coup, quand le poker a pointé un peu son nez avec le World Poker Tour de Patrick Bruel,
Ah oui.
qui était mon inspiration principale, il faut le dire.
On est tous passés par là, je crois. Hein. Presque.
Ouais. Et il se trouve que du coup, j'avais plein de joueurs d'échecs qui avaient envie de jouer et de découvrir justement une activité où il y a une part de chance qui n'existe pas du tout aux échecs. Et du coup, c'est ça qui nous a motivés. On était un petit groupe à se lancer là-dedans. Enfin, forcément, au début, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, j'ai envie de progresser. Et puis voilà, on rentre là-dedans.
Ah oui. Les échecs, c'est pas un jeu de chat?
Pas trop.
Ah. Bon, non. C'est pas pour moi alors. C'est pas pour
on,
moi.
On considère qu'il y a à peu près 1% de chat à peu près aux échecs. C'est un peu léger, quoi, du coup.
Et au poker, il y a combien?
De quoi?
Et au poker, il y a combien?
Je sais pas, 90? Non, c'est pas ça?
Je sais pas, ça dépend pour qui, peut-être. Bon, et aujourd'hui, tu joues à quoi, là, principalement?
Aujourd'hui, je suis en pleine phase de renouveau cash game, donc uniquement sur du hold'em. Faut savoir que je passe par plein de phases psychologiques qui font que je teste un peu plein de choses différentes. Que ce soit les variantes, comme le Homa et le Rads, et puis évidemment le Horse, qui est le mix de toutes ces variantes-là. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais qui malheureusement n'est plus possible maintenant en France.
Ah oui.
Puisque online, on n'a plus le droit de jouer à ces jeux-là, avec de l'argent en tout cas. Donc du coup, je me suis rabattu sur le hold'em et sur le cash game en ce moment.
D'accord. Alors, il y a un mois de ça à peu près, on a eu au sein du club donc une assemblée générale et tu as été réélu, donc pour la deuxième année consécutive, président. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle en tant que président? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, voilà, je te laisse y aller.
En tant que président, l'objectif c'est de faire tourner l'association du Club Poker 95. Donc, le principe de base, c'est de faire en sorte qu'il y ait une entité un peu dirigeante qui s'occupe de faire en sorte que tout se passe bien, c'est-à-dire financièrement vérifier qu'on n'a pas de soucis, trouver des idées pour l'activité du jeudi soir, donc on se retrouve tous les jeudis soirs, donc il faut trouver des challenges pour tout le monde. Il faut s'occuper des partenariats, il faut s'occuper de la mairie, des contacts avec la mairie, la maison de quartier, et tout ça en fait c'est le conseil d'administration de l'association qui s'en occupe. Donc chacun va avoir des tâches à faire là-dedans. Et moi, en tant que président, je dois juste m'assurer, non seulement que je suis le représentant de l'association, d'un point de vue juridique, mais aussi par rapport à la mairie, et faire en sorte que tout tourne, qu'on arrive à être un peu partout et qu'on arrive à lancer des projets. Disons que j'essaye de soutenir tous les membres du conseil d'administration qui vont avoir des idées et des projets à porter.
D'accord. C'est un gros boulot, en fait, non? Ça représente beaucoup de travail.
C'est pas mal de. Enfin, disons que le c'est du. Ça prend du temps parce qu'il faut s'assurer que tout se fait. Mais c'est aussi beaucoup de. Enfin, je me repose beaucoup sur les autres, quoi. Enfin, c'est tout le conseil d'administration qui bosse. Moi, je suis juste le représentant au-dessus, mais je vais pas faire plus de boulot que les autres, quoi. Après, évidemment, il faut toujours être en contact avec les gens et ça demande plus ou moins de temps, effectivement.
D'accord. Ça, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait.
Ouais, c'est clairement un travail d'équipe. Tout seul, je pourrais pas tenir l'association, c'est évident. Le poste de président, c'est juste une image et derrière, il y a 10 personnes qui travaillent là-dedans et qui font que ça marche.
D'accord. Bon, ok. Alors, monsieur le président, dites-moi, monsieur le président, qu'est-ce que va faire le Club Poker 95 l'année qui vient, 2010-2011?
C'est une bonne question. Ça va déjà dépendre un peu du nombre de membres qu'on va avoir.
Mm-hmm. Il y en avait combien l'année dernière?
On a fini à peu près avec 120 membres, un petit peu moins. en sachant que l'année d'avant on était à 60, on a doublé de chiffres en l'espace d'un an.
Ouais, c'est bien.
C'est quand même pas mal. Et puis bah, avec la législation française qui bouge, on peut peut-être légitimement penser qu'on va avoir encore un peu plus de monde qui va arriver cette année. Et puis je pense qu'en fonction de ça, déjà, on arrivera à voir vers où on va. L'objectif, de toute façon, de notre côté, c'est un peu le même programme que l'année dernière, c'est-à-dire un tournoi mensuel un dimanche.
Toujours du Texas Hold'em.
Toujours du Texas Hold'em,
bien,
ça ne change pas. Parce que ça, de toute façon, je pense qu'avant de se lancer sur les autres variantes, il faut un peu laisser le temps aux gens de bien maîtriser le Hold'em, qui reste la variante principale en France pour le moment.
Ouais.
Donc, on aura ce tournoi-là qui continuera. Donc, toujours un tournoi sur la même base, c'est-à-dire un tournoi gratuit avec un maximum de 100 personnes. Là actuellement on tournait plutôt à 65-70 personnes, donc on a une petite marge. Et puis enfin, ça va vraiment dépendre aussi du nombre, parce qu'effectivement si on se retrouve à plus de 100 personnes par tournoi, on va avoir un petit problème de place, donc il faudra qu'on trouve une solution, et donc il va falloir certainement réfléchir avec le conseil d'administration là-dessus.
Ouais, j'ai cru comprendre qu'effectivement la salle a été limitée à 100 personnes, hein, c'est ça?
Ouais, on est limité à 100 personnes.
Question d'assurance, un truc comme ça, non?
Assurance principalement, et enfin, que ce soit enfin, notre assurance et aussi l'assurance de la ville.
D'accord, oui. Donc on peut pas trop jouer au con avec ça.
Voilà, on garde la salle, c'est toujours le principe.
Exactement, oui.
C'est le principal.
Je crois que c'est le but qu'on doit tous avoir, c'est avoir cette salle qui quand même nous rend vraiment énormément de services et nous permet de nous retrouver tous les jeudis, nous retrouver une fois par mois, peut-être même plus des fois, enfin, de faire des choses vraiment fantastiques et.
Sans cette salle, l'association n'aurait pas pu marcher comme ça l'année dernière, quoi, clairement.
C'est sûr, oui, tout à fait.
Et tous les jeudis pour jouer pendant 3 heures, je pense pas qu'il y ait énormément d'associations qui peuvent le faire, et c'est vrai que c'est vraiment un des gros plus de l'association.
Alors justement, tu parles des jeudis. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année, les jeudis?
Alors cette année, on va reprendre une formule un peu similaire à ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire un grand challenge qui va durer sur toute l'année. Donc un challenge de bankroll virtuel.
Ouais.
Donc l'objectif, c'est pour chaque joueur de gérer sa bankroll et de la faire progresser dans un classement qui durera tout au long de l'année. L'année dernière, on a eu énormément de participants pour ce challenge, avec une course-poursuite qui a duré nous a tenu en haleine sur les dernières sessions et qui a vraiment fait plaisir à voir. Et on va donc reproduire un peu la même chose. On aménage un peu les règles de façon à ce que tout le monde puisse jouer tout au long de l'année, parce qu'on a eu quelques joueurs qui ont un peu perdu d'intérêt au fur et à mesure que le challenge avançait.
Ouais, c'est un peu le risque quand on est un peu lâché au niveau du classement de se décourager et plus faire un maximum d'efforts.
Ouais, c'est le problème du poker, c'est que dès qu'on est sur la pente descendante, il faut arriver à trouver les moyens de se relever. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile de base quand on joue sur internet ou au poker avec de l'argent. Mm-hmm. Enfin, c'est vrai que quand il n'y a plus aucun intérêt et qu'on est. Enfin, c'est vrai qu'on peut se démotiver vite. Alors c'est à nous de trouver des solutions justement pour que les gens se démotivent pas et aient envie de remonter.
Ouais. Ouais. Sur toute l'année, c'est un sacré challenge quand même.
Sur toute l'année, c'est très très dur à faire. Hein. Je t'avoue que là-dessus, on est encore en phase de réflexion pour trouver les bonnes solutions.
Et il y aura aussi quelque chose par équipe, j'imagine.
Ouais, bien sûr, on va reproduire le tournoi par équipe qui a été, la plus grosse satisfaction du jeudi. Donc une compétition avec des équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter sur différents challenges. Il y aura du heads up, il y aura des sit and go, il y aura du cash game, il y aura vraiment un peu de tout. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé les jeudis de compétition par équipe était vraiment génial l'année dernière. On a senti vraiment un esprit d'équipe qui se montait autour du poker, parce que finalement on peut penser que c'est un jeu un peu perso, mais Mais il y a cette émulation par équipe qui était vraiment géniale l'année dernière.
Ouais, c'est vrai que ça donnait plaisir à voir avec une tension qui montait au fur et à mesure de l'année, les équipes qui se soudaient
Ouais,
et
complètement.
qui se ouais, avec un super esprit de corps, c'était assez sympa ça.
Ouais, on sentait que ça calculait, que c'était, on sentait la pression qui montait sur chaque joueur, alors que l'enjeu était pas énorme, c'était
Ouais, mais c'est rigolo, c'est le
principe de la victoire, quoi, qui
voilà, faut gagner pour
voilà.
l'équipe, pour ouais, exactement.
C'était...
Même s'il n'y a pas grand-chose à gagner derrière, c'est bon. J'espère que ça va être un succès aussi cette année.
Ben, on espère. Et bien sûr, on aura à côté un tournoi de heads-up encore,
Ouais.
comme l'année dernière aussi. Ça, c'est encore une formule qui marche et qu'on reconduit naturellement.
Voilà. Sauf que cette année, je vais le gagner, hein. Bon, je préfère le dire à tout le monde parce que.
Je sais pas si tout le monde sera d'accord. Bon, je
Ah
pense
bon?
qu'Alco
Mince.
sera d'accord, je pense, mais pour les autres, je suis pas sûr.
Bon, bah, tant pis alors, je le gagnerai pas. C'est bête.
De toute façon, je suis éliminé au premier tour, hein, donc ce genre de choses ne me concernent pas.
Oui, je sais. Mais je te rassure, personne n'a peur de toi. Hein.
Oui, je sais, je sais. Je l'ai dit, hein, je suis un kill, je suis un des premiers, mais en fait, je ne sers à rien, hein, c'est connu.
Ouais, ok. Alors, d'autres choses au niveau du jeudi ou même des tournois
Écoute, il y a la chose qui m'a le plus plu l'année dernière, c'est quand on a organisé un tournoi de caritatif pour l'association La Vie Selon Noémie.
Ouais.
Donc c'était un tournoi qui avait été organisé par le président de l'association Daniel Montero. Et on a fait un truc qui n'est pas forcément évident à voir pour les autres, c'est que le poker peut servir de tremplin pour tout ce qui est associatif. Et on a réussi à le faire avec ce tournoi-là qui a ramené 101 personnes.
Ah, c'est énorme.
C'est vraiment énorme, il y a eu beaucoup de pubs de la part de l'association pour que ce tournoi-là soit une réussite. Ils ont vraiment bien fait leur boulot. Nous, on a apporté notre expérience, notre savoir-faire sur l'organisation des tournois, avec le matériel et tout ce qui concerne la logistique. Et ça a été vraiment un échange très positif. On a été super contents de faire ça. Ils ont été super contents qu'on soit là pour les aider. Et tous les participants ont été super contents de faire ce tournoi, donc c'était vraiment une grande fête du poker d'un côté et surtout de soutien pour la petite Noémie.
Et en plus, ça revalorise un petit peu notre image, qui est pas toujours glorieuse. Hein. Le poker, ça a souvent
Ouais.
une image qui est les tripots enfumés ou les choses comme ça. Et là, on montre qu'on s'ouvre sur le monde, donc c'est.
Qu'on peut être utile et que c'est pas uniquement un jeu où il va y avoir des pistolets et puis tout le monde va serrer dessus à la fin de la partie, quoi. Non,
Ouais, c'est ça.
c'est pas ça, c'est une activité, je vais pas aller à considérer ça comme un vrai sport, mais c'est la même activité que celle qu'on peut avoir quand on joue aux échecs, on joue au bridge ou au tarot, quoi. Donc, faut voir ça comme un jeu de société et pas comme ce que ça n'est pas.
D'accord, très bien. Bon, bah écoute, merci pour cette vision sur l'année à venir. Alors, on va faire une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes avec Bruno.
Get back.
Voilà, c'était les Pink Floyd avec Money en 1973. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés en 1973 et pourtant, voyez, il y avait des choses qui sont passées avant votre naissance. Il y avait déjà du super bon rock, même au temps des dinosaures. Ok, alors Bruno, là, il y a en début de mois, là, il y a eu quand même un événement assez important qui a pas mal bouleversé les habitudes des joueurs de poker, surtout des joueurs de poker en ligne. On se retrouve maintenant plus qu'entre Français. Alors, est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui n'auraient pas suivi attentivement ces événements?
C'est mal de ne pas avoir suivi.
Ah, c'est mal, mais bon, peut-être que certains de nos auditeurs n'ont pas trop eu le temps de se consacrer à ça, ou peut-être même ne jouent pas online, hein, je pense qu'il y en a aussi.
C'est vrai, il doit y en avoir.
Non, en fait, donc on a une nouvelle loi qui est tombée, c'est la loi sur tout ce qui est paris et jeux de hasard. Donc le poker fait partie de cette catégorie, juste titre, parce qu'il y a quand même du hasard dans le poker, il faut le dire. A priori, il y en a beaucoup d'après certains. Bon, après, c'est une question de technique, on va dire. Donc le principe de base de la loi, c'est de dire que l'État va autoriser à ce qu'on joue au poker en ligne, chose qui n'était avant pas autorisée, bien que pas interdite. Bon, c'était un gros flou juridique, on va dire, clairement. Et donc ils ont décidé de légiférer là-dessus. Et la conséquence principale pour ceux qui jouaient au poker online avant, c'est qu'on se retrouve à jouer uniquement entre Français. C'est-à-dire que, en gros, un Français n'a pas le droit de jouer sur des plateformes online mondiales.
D'accord. En fait, il faut un accord, un agrément, c'est ça, pour les rooms, pour pouvoir accueillir des joueurs français maintenant.
Ouais, bien sûr. En fait, l'idée c'est ça, c'est que chaque room qui veut pouvoir exercer en France a dû passer, a dû présenter un projet au niveau de l'État et plus précisément de la loi Argel. Et s'ils ont récupéré leur agrément, à ce moment-là, ils peuvent avoir des rooms en France et donc avoir des joueurs français.
D'accord. Pour ceux qui jouaient avant sur des rooms internationales, ils ont perdu leurs sous ou comment ça s'est passé?
Non, ça a au moins été bien fait. On a eu peur à un moment donné. C'était une de nos craintes au départ, c'était de savoir comment ça allait se passer.
Ouais.
La plupart des sites ont bien géré le truc. Les comptes ont été bloqués, mais l'argent n'a pas été bloqué.
Oui.
On a pu le récupérer derrière sans aucune difficulté. Il y a quelques sites qui ont été un petit peu durs, on va dire. Je ne ferai pas de mauvaise pub, donc j'en parlerai pas.
Ouais.
Et dans l'ensemble, la plupart des sites ont vraiment bien géré la situation de façon à ce qu'on récupère tous notre argent sans aucun problème, sans être pressé par le temps ou quoi que ce soit. Et de façon à ce qu'on puisse de toute façon le réinviter sur leur nouveau site une fois qu'ils arrêtent en France.
D'accord. Donc aujourd'hui, si je veux jouer avec des Américains et des Chinois, je ne peux plus.
Légalement, non.
D'accord, ok.
Maintenant, si tu le fais, tu es hors la loi.
D'accord.
Avant, si tu le faisais, c'était pas un problème.
D'accord. Et alors, est-ce que pour nous, joueurs de poker du club, est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette loi, ou est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle?
Ça dépend de quel point de vue tu te places. Moi, je vais considérer que quand on est joueur de poker, on aime jouer contre tout le monde, parce que chaque nation va avoir sa façon de jouer, ses concepts. On a différents styles de jeu qui existent et qui sont complètement différents de nation en nation. Les Scandinaves sont réputés pour être des joueurs très agressifs. Les Français sont réputés pour être des joueurs assez médiocres. Les Américains sont réputés pour être les rois du monde, mais ça, c'est eux qui font cette réputation-là, donc forcément, c'est un peu particulier.
C'est pas un peu des stéréotypes non plus,
hein. C'est des stéréotypes à la base, hein. Bon, après, on trouvera de tous les types de joueurs dans n'importe quelle nation, de toute façon. C'est pas une règle générale, mais c'est vrai que on sent qu'il y a des écoles différentes et je trouve que c'est dommage de se fermer à ça et de se retrouver que entre nous parce que on perd cet aspect, je dirais, éducatif. Hein. Quand on veut progresser, c'est important de jouer contre vraiment tout le monde, quoi.
Donc, ouais.
Je pense qu'on va perdre, on va perdre du temps, beaucoup de temps là-dessus, parce que
se refermer sur nous-mêmes, ça va, je pense pas que ça va nous aider à ce niveau-là.
D'accord. Mais alors, tu disais tout à l'heure que les joueurs français ont leur réputation d'être assez médiocres. Alors, je sais que... moi, j'aime bien... Enfin, avant, j'aimais bien quand je tombais contre des joueurs français, parce que c'était souvent les joueurs les plus mauvais de la table. Pas toujours, mais... souvent. Mais donc, si c'est vrai, est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle pour notre tirelire?
Ouais, oui, bah, enfin... Pour l'instant, oui. Actuellement, effectivement, pour notre tirelire, je pense que c'est plutôt sympa. Moi, j'ai... Bizarrement, j'ai rarement joué contre des Français. En fait, je m'en rends compte maintenant. La plupart du temps, quand je suis à des tables, effectivement, je jouais contre plein de nations différentes, mais rarement des Français.
Ouais.
Et c'est vrai que bah, moi, je commence un peu à jouer sur les rooms françaises depuis une petite semaine là. Et c'est vrai que bah, maintenant que je joue que contre des Français, je me rends compte qu'il y a un niveau qui est particulier. C'est quand même un peu léger et je pense que c'est vraiment dommage de notre tirelire va être contente, je pense. Normalement, si tout se passe bien, elle va être contente. Mais je pense qu'on va très très peu progresser dans les mois voire années à venir quoi.
On va prendre du retard aussi par ce que tu veux dire, on va prendre du retard par rapport aux autres pays qui eux jouent un peu contre tout le monde et donc c'est ça.
En fait, c'est une question de nombre de nombre de joueurs en fait.
Ouais.
C'est si tu considères la population mondiale, tu vas avoir on va prendre un chiffre de base, on va dire disons que tu as 1000 joueurs qui sont super forts sur une population mondiale.
Mais si ouais.
Tu limites à la population française, tu te retrouves avec 4 joueurs super forts. Il y a un problème de nombre pour progresser. Bon, il y a plus suffisamment de bons joueurs pour arriver à progresser tous ensemble.
Ouais.
On va se retrouver sur des tables où on va avoir du coup des joueurs qui sont moins bons et il y aura pas suffisamment de techniques pour progresser aussi vite que dans d'autres endroits où on va avoir plein de forts joueurs qui vont se retrouver ensemble.
D'accord. Tu disais donc que ta première semaine là de pratique du poker, ça semblait confirmer ton impression que le niveau était plutôt faible.
Ouais.
T'as une idée du pourquoi
Ben non, j'ai pas d'idée précise. Enfin, pourquoi c'est plus facile maintenant? Je pense qu'il y a dans l'ensemble. Moi, avant, quand je jouais sur une room de poker, je me retrouvais j'avais en face de moi quasiment que des bons joueurs. Ou en tout cas, j'étais plus mauvais qu'eux. Ça, c'est clair. Donc j'avais du mal à m'en sortir et du coup je jouais des limites plus faibles pour justement trouver des joueurs de mon niveau. Et là on se rend compte, c'est le phénomène de découverte déjà, il y a beaucoup de gens qui s'approchent du poker alors qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Le fait que ce soit légiféré justement ça leur donne envie d'essayer. Donc on a je pense beaucoup de joueurs qui en ce moment essayent.
Ouais.
Mettre 50€ sur la table sans se rendre compte, sans gérer une bankroll ou quoi que ce soit, et se dire juste je vais cramer 50€, voir ce que ça vaut quoi. Donc ça je pense qu'on a beaucoup de nouveaux qui arrivent et ça fait beaucoup et je pense que derrière les joueurs jouent à des limites trop par rapport à leur niveau sans se rendre compte vraiment qu'ils perdent beaucoup d'argent quoi.
Donc ça vaut le coup si on avait l'habitude de jouer par exemple avec des blindes à 5 et 10 centimes, de tenter maintenant qu'on est entre français de jouer à 10 et 25 centimes ou 25 et 50 ou est-ce qu'il faut pas?
Ben là ça va dépendre. Ça va dépendre de ta confiance en toi et de ton niveau, mais faut pas oublier qu'il y a des règles de bankroll management à gérer aussi. Donc on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série. On peut tilter facilement, enfin là clairement en plus le niveau fait qu'on peut tilter facilement parce qu'il y a des horreurs qui peuvent se faire et qui font mal.
Ouais, c'est un peu le gros risque en fait le tilt. Voilà.
Ouais, là je pense que faut clairement pas tilter quoi. C'est proscrit. Si on s'amuse à jouer à des limites plus hautes, il faut faire en sorte que le tilt ça n'arrive pas ou le limiter au maximum parce que sinon ce serait dommage de tilter et de piquer tout son argent à d'autres. Alors qu'il y a moyen, en restant concentré, de vraiment faire de très très bons bénéfices.
D'accord.
Enfin, moi je sais que j'ai passé une année pourrie cette année là, j'ai fait 6 mois assez catastrophiques et en une semaine j'ai rattrapé tout ce que j'avais perdu en 6 mois.
Donc, en une semaine, t'as rattrapé tout ce que t'avais perdu en 6 mois.
Ouais. Et j'avais vraiment une année pourrie. Hein. Donc,
waouh.
Enfin, là, il y a vraiment de la. C'est la bonne période pour se refaire pour ceux qui en ont besoin.
En faisant gaffe à pas jouer au-dessus de ses moyens.
Clairement, clairement, parce que il suffit de une, deux mauvaises rencontres. On tilt, on perd encore une cave, on tilt, on perd encore une cave, et c'est terminé. Et là, faut tout recommencer depuis le début, et puis au lieu d'avoir récupéré toutes vos cartes, bah, vous les avez doublées, et puis il faut tout recommencer, quoi.
Ouais.
Donc non, c'est clair, il faut pas jouer au-dessus, parce que le niveau est plus faible, il faut aussi faire attention à sa bankroll. Maintenant, le niveau est plus faible, donc clairement, si vous avez un bon niveau en ML4 et que vous êtes capable d'encaisser plusieurs caves de pertes, ça va pas, si vous êtes sur un mauvais rush, et ben, si vous êtes capable d'encaisser ça, ça peut valoir le coup, mais faut faire super attention.
Ok, d'accord. Et on a parlé aussi pas mal du rake, c'est-à-dire la commission que les sites prennent.
Ouais.
Dans la mesure où l'État prend une taxe, enfin impose une taxe sur les rooms,
ouais.
Est-ce que le rake, est-ce qu'on sent l'augmentation ?
Ouais, on sent clairement l'augmentation, vraiment. C'est assez violent. Donc faut savoir que avant on était sur dans une situation où quand il n'y avait pas de flop, il n'y avait pas de prélèvement.
Ouais.
Donc no flop, no drop. À côté de ça, on avait 5% de prélèvement sur le pot une fois que le flop était passé.
Ouais.
Et on avait ce prélèvement qui était capé à 2,50$, je crois. Maintenant, on est passé dans une situation où on a 2% pre-flop sur la plupart des sites, parce que certains sites peuvent monter à 5. Et post-flop, on est sur des prélèvements qui tournent aux alentours de 5 à 7,5%.
Ouais. C'est ce qui est en fait énorme et risque de gréver complètement les bénéfices des joueurs, ou même accélérer encore la vitesse de perte des plus mauvais,
ouais,
joueurs.
Ouais. Ah bah là, de toute façon, bah pour le joueur, c'est une catastrophe dans le sens où qui perd, qui gagne. De toute façon, soit il gagne moins, soit il perd plus. C'est vraiment horrible pour un,
ouais,
pour un jeu de poker. C'est une catastrophe. Hein. Ouais. Faut savoir que on a l'impression que de passer de 5 à 7% ne représente pas forcément grand-chose. On se rend pas forcément compte. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide sur ma semaine de jeu. Ça représente aux alentours d'une centaine d'euros. Enfin.
Une centaine d'euros de commission pour les sites. Ouais.
De commission pour les sites.
Ouais. Alors, le week-end dernier, il y a eu une opération qui a été lancée par des gens du club poker. Donc le club poker, pas le club poker 95, le club poker national.
Ouais.
Une opération qui s'appelait Argel m'a tué. Argel, hein, donc c'est la commission de régulation des jeux en ligne et en fait donc j'ai participé à cette petite opération, c'était rigolo comme tout. On a bloqué pendant 2 heures PokerStars, donc on s'installait et puis on se mettait en sit out, donc on était assis à une table mais en fait on jouait pas.
Ouais, il paraît que c'était génial à voir.
C'était assez rigolo. On avait, il y avait toutes les tables qui étaient bloquées, où il n'y avait pas de jeu du tout. Et donc apparemment, ça a eu pas mal d'effets, pas mal de résultats, puisque le grand PDG de PokerStars, donc doit être un multimilliardaire quelque part dans une villa confortable, a contacté le représentant du groupe qui a monté cette opération de boycott.
Ouais.
Et bon, on espère que ça va donner un certain nombre d'effets. Alors bon, c'est bien sûr, c'est à suivre. Il y a des, il va peut-être y avoir des suites sur d'autres sites. On ne sait pas encore trop. Bon, c'est une opération à suivre. On attend surtout que les sites réagissent et baissent un petit peu la commission qui prélève.
Bah, ce serait vraiment bien pour les joueurs français en tout cas, parce que c'est vrai que à long terme, à court terme, ça pose pas de problème, je pense, par rapport à toute cette découverte du poker par tous les joueurs français. Maintenant, une fois que tous les joueurs auront progressé, qu'on gardera uniquement ceux qui ont envie de jouer sur le long terme, donc d'ici, je dirais, quelques mois, voire peut-être un an, on sera dans une situation où le rack nous fera vraiment très 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 mal.
Très mal.
Et je pense que c'est là où le poker sera terminé en France, quoi, tout simplement. Hein.
D'accord. Ok. Alors, maintenant qu'on est passé donc en .fr un peu partout, on pourra plus jouer avec la sauce sur Unibet.
Oui. Oui, oui. C'est, de toute façon, on avait terminé le partenariat avec Unibet à la fin d'année. Et la nouvelle législation faisait que tous les partenariats avec les autres associations étaient terminés de toute façon.
D'accord. Et donc, où est-ce qu'on va là-dessus? Est-ce qu'on a des pistes?
Mais du coup, effectivement, on a cherché à avoir un nouveau partenaire online. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Il faut savoir qu'on est en plein milieu de l'application de la loi. Ça fait à peine une semaine maintenant que la loi est appliquée. Du coup, les rooms sont en train de travailler là-dessus.
Ouais. Elles sont débordées. Elles sont complètement débordées.
Elles sont un peu débordées. Ouais. Par ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, avec l'argel d'une part, ça leur fait déjà pas mal de boulot avec les joueurs de poker individuels. Je voulais d'ailleurs ajouter un petit point là-dessus, c'est qu'il y a une association de joueurs de poker online qui s'est mise en place, avec justement le représentant qui a discuté avec le patron de PokerStars. Donc il y a une activité qui est en train de se monter pour les joueurs de poker online. Et donc du coup, effectivement, nous on est en discussion avec plusieurs rooms pour essayer de trouver un partenariat sympa pour l'année prochaine, qui fasse plaisir à tous nos joueurs et qui soit utile aussi évidemment pour notre partenaire. Donc on a deux partenaires actuellement avec lesquels on discute. Il faut savoir qu'un des deux n'a pas encore eu son agrément, donc est en train de lutter pour l'avoir.
Oups, ouais.
Forcément, s'ils ne l'ont pas, on va avoir du mal à aller plus loin avec eux.
Ouais, forcément.
A priori, ça devrait pas poser de problème, mais bon, c'est pas encore fait. Et puis, à côté, on a PokerStars qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui a déjà son agrément depuis le début, qui s'est positionné très 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 rapidement pour aider les associations à grandir et faire en sorte que les joueurs de l'association viennent jouer chez eux, forcément. C'est forcément du gagnant-gagnant, hein. c'est pas que tout bénéf pour nous, bien sûr. Hein.
Bien sûr.
Mais donc du coup, ils nous ont proposé des choses qui sont intéressantes, pas totalement satisfaisantes. Il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir faire et qu'on peut pas encore, qu'ils nous ont pas proposé sur leur première proposition. Donc on discute, on négocie. On essaie de voir ce qu'on peut améliorer. Il y a des propositions qui sont très 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 intéressantes. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui pourraient faire plaisir à nos membres pour l'année prochaine. Quand même.
Et ça c'est. Donc on aura des infos en fait via le forum hein, dès que le conseil d'administration aura pris
une décision.
Par rapport aux propositions des rooms.
Dès qu'on aura eu des propositions claires de la part des rooms. On passera dans une discussion la décision sera prise par le conseil d'administration, mais je pense qu'il y aura certainement des joueurs de l'association, des membres de l'association qui auront peut-être envie aussi de participer un peu au débat. Même si la décision se fait au niveau du conseil d'administration, c'est pas ça qui empêche que d'autres aient le droit de participer.
D'accord.
Et on prendra une décision sur ce partenaire-là une fois qu'on aura un peu... vu ce que tout le monde propose et que ce sera vraiment clair pour tout le monde, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on est toujours dans la phase on attend de voir ce qui se passe.
T'as une idée au niveau du calendrier? C'est avant la rentrée probablement.
J'espère ouais. Vraiment que tout sera fait en août. On aura réussi fin août, je dirais, à avoir un accord clair et définitif avec un de nos partenaires.
D'accord. Mais encore une fois, ça dépend pas que de nous.
Ah, ça dépend quasiment pas de nous, les gars.
Voilà. Ok. Bon, écoute, Bruno, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos que tu nous as données sur ta présentation de l'association, de ce que tu y fais, du travail du conseil d'administration, des projets de l'année prochaine.
C'est l'énorme travail du conseil d'administration.
Et pour conclure, je voulais juste savoir pour toi, qu'est-ce que tu attends d'ici la fin de l'année, tes ambitions personnelles au niveau poker ou au niveau autre, qu'est-ce que tu veux accomplir d'ici cette fin d'année?
Mes ambitions remontent là en ce moment, avec la petite période sympa que j'ai en ce moment. C'est clair que finir de. J'avais des objectifs en début d'année qui ont été rapidement mieux oubliés avec l'année catastrophique que j'ai faite. Et il me reste 6 mois et là je me dis que là je suis pas loin de pouvoir reprendre ces objectifs. Alors il va falloir carburer hein, clairement parce que je m'étais mis un an pour les faire et il me reste plus que 6 mois donc ça va quand même être dur. Mais bon, l'objectif personnel c'est booster mon bankroll, arrêter de faire des erreurs quand je joue au poker. Enfin, je continuerai toujours à en faire, mais en faire le moins possible. Et surtout en faire moins que ceux contre qui je suis en train de jouer.
Ouais.
Et donc ça, c'est d'un point de vue personnel. Et surtout derrière, m'amuser au poker avec mes amis, avec les membres de l'asso. Et montrer vraiment que c'est pas que un jeu d'argent, c'est un jeu de société qui regroupe les gens. Et je pense que c'est l'aspect le plus important en fait qu'on doit trouver dans le poker.
Eh ben merci beaucoup pour tout ça. On te souhaite bonne chance pour cette fin d'année, que tu puisses remplir tes objectifs.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt jeudi ou un dimanche. Allez, à bientôt Bruno. Voilà, c'était Taxman, une chanson des Beatles en 1966. Ça commence à faire un bail. Une chanson qui s'applique bien, je trouve, à la discussion que nous avons eue avec Bruno. Alors, je veux dire deux mots maintenant sur les résultats de nos membres, les perfs de nos membres, puisqu'il y en a eu, et il y en a eu deux de taille. La première, c'est la qualification donc de Marc de Paris pour le Paradise Poker Tour à Sofia. Donc tournoi qui aura lieu les 17 et 18 juillet. Et Marc a gagné sa qualification donc pour ce tournoi à l'issue d'un satellite qui regroupait les 10 joueurs qui lors des tournois de la Ligue Île-de-France ont fait les meilleurs résultats. Il faut savoir que Marc a été repêché. Il était 11e, il a été repêché suite au désistement de Youn. Donc félicitations à toi Marc, bonne chance pour Sofia, et puis évidemment on suivra avec attention tes résultats. Le deuxième résultat, et alors là ça devient tout à fait exceptionnel, c'est Stradam. Stradam qui a réussi à décrocher une place pour le main event des WSOP. Il a déjà passé le premier jour, qui était jeudi ou vendredi dernier, je ne sais plus exactement. Il a 23 000 et quelques en jetons, c'est pas énorme, mais il est encore en vie avec un M tout à fait confortable. Et pour lui, c'est quand même une... J'imagine, hein, j'aimerais bien être à sa place. C'est une expérience formidable de pouvoir se mesurer au plus grand lors du main event, tournoi des tournois à Las Vegas. Comment est-ce qu'il a réussi à décrocher sa place? C'est par l'intermédiaire d'un premier satellite à $150 de mémoire. Tu me corrigeras, hein, Stradam, si je me trompe. Un premier satellite à Forges-les-Eaux. Je dis peut-être des conneries, c'était peut-être pas Forges-les-Eaux. Enfin bon, un casino de Partouche. Premier satellite, il est qualifié pour un deuxième satellite. Et il a terminé troisième de ce super satellite, décrochant ainsi donc une place pour la finale Partouche à Cannes et une place pour le main event des WSOP. Suivez sa progression, n'hésitez pas, c'est Franck Catois, et je pense que sur Poker News ou bien sur le site de Partouche, vous pourrez suivre ses résultats, sa progression. On espère, Franck, que tu vas aller très loin. Fais-nous rêver, c'est exceptionnel, profites-en un max et good luck. Voilà, c'est terminé pour ce premier CP95 Poker Podcast. Merci à Bruno alias Enkil, notre président, de nous avoir fait l'honneur de son illustre présence et de nous avoir éclairé sur les tenants et aboutissants de la nouvelle législation française. C'était Mike, votre hôte pour ce premier Poker Podcast, que j'ai été ravi de passer en votre compagnie. Dites-nous ce que vous en avez pensé et à bientôt sur le site du club et sur son forum au www.clubpoker95.com.